tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, nous sommes aujourd'hui au foyer des jeunes travailleurs de la ville de Périgueux, en présence de Brigitte Raymond, travailleuse sociale, et de Mathieu Houdus, qui dirige ce foyer. Ils ont accepté de nous parler de leur foyer, de leur centre d'hébergement pour les jeunes, de la manière dont fonctionne cette œuvre très utile. Brigitte, bonjour. Mathieu, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce qu'est le foyer des jeunes travailleurs de Périgueux ?
Alors oui, le foyer des jeunes travailleurs de Périgueux donc, est une structure qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans qui sont en situation d'insertion professionnelle, qui ont donc besoin d'un logement, et le FJT leur permet d'avoir donc des loyers modérés et de pouvoir, avec des faibles revenus, avoir un logement, un accompagnement, et donc de mener leur projet tout en étant accompagnés vers une autonomie. La logique du FJT, c'est ça, c'est d'accompagner les jeunes vers l'autonomie, qu'ils puissent quitter la structure en étant capables de gérer leur vie de A à Z.
Alors ce foyer, dites-nous où il est situé, et parlez-nous un petit peu de sa capacité d'accueil et de la manière dont on y rentre.
Alors ce foyer est donc situé à Périgueux, il est au 1 rue de l'Entrepôt, donc derrière la gare. Et c'est un bâtiment donc, qui est relativement récent, puisqu'on a déménagé, nous étions avant rue des Termes, donc derrière la CAP et la gendarmerie, entre la CAP et la gendarmerie. Et donc aujourd'hui, ce foyer a ouvert en décembre 2017, et nous avons une capacité d'accueil de 70 places, mais nous avons 38 T1, des appartements sans cuisine équipés, et 16 T1 bis, qui sont plus grands, qui peuvent accueillir deux personnes et qui ont une petite kitchenette.
À l'heure actuelle, est-ce que votre foyer est complètement plein ? Est-ce qu'on se bat pour y rentrer ? Quelles sont les conditions d'accès ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est gratuit ?
Alors, on ne se bat pas pour y entrer, mais effectivement, il y a de l'attente. Il y a beaucoup de demandes, plus de demandes que de places. Donc, il y a une liste d'attente qui est assez conséquente. Donc, il faut faire les demandes le plus tôt possible si on souhaite rentrer. Et donc, c'est une structure qui propose donc des logements. Donc, effectivement, c'est payant. Et les conditions d'entrée sont donc avoir entre 16 et 30 ans, avoir des revenus qui permettent de vivre au FJT et d'assumer les charges de la vie quotidienne et celles liées au logement, avoir un projet d'insertion et être en capacité de supporter, entre guillemets, la dimension collective du foyer qui reste relative, puisque les logements sont quand même, c'est des logements, on est seul dans son logement, ou à deux, mais on l'a choisi. Et la dimension collective, c'est sur les parties communes où il y a la cuisine pour les gens qui n'ont pas de cuisine dans leur logement, et puis lors des activités qui sont proposées, voilà. Ce sont les critères d'entrée sur le foyer de jeunes travailleurs.
Parce que votre structure, là, n'offre pas de possibilité de restauration.
Non. Chaque jeune...
Uniquement, mais il y a des appartements où les gens, comme vous l'avez dit, peuvent être complètement autonomes.
Voilà, il y a des logements avec la cuisine intégrée, et les logements, donc les plus petits, les T1, qui sont conçus pour une personne, ont un frigo. Donc on peut, dans tous les logements, il y a des frigos. Mais la cuisine est collective et au rez-de-chaussée.
Brigitte, vous, de votre côté, quel est votre... Alors, Mathieu, je me suis adressé à lui en premier parce que c'est le directeur du foyer. Brigitte, vous, quel est votre rôle à l'intérieur du foyer ?
Alors moi, je suis travailleur social et donc je fais partie de l'équipe éducative. Et mon rôle est d'accompagner les jeunes vers, comme le disait Mathieu tout à l'heure, vers l'autonomie à travers l'accès au logement. Donc il y a différents axes de travail dans les accompagnements. Ça peut porter sur des démarches administratives, sur un accompagnement budgétaire, comment gérer ses premiers salaires, ses premiers revenus, un accompagnement par rapport à l'insertion professionnelle aussi, par rapport à des recherches ou de stages ou de formation ou d'emploi direct. Enfin, tout ce qui touche, on va dire, le quotidien et qui permet de s'insérer dans la vie.
Alors, Pour un effectif d'une soixantaine de jeunes, dites-moi, c'est un travail qui doit être très absorbant, ça, parce que comme par définition, toutes vos interventions doivent être personnalisées, ça doit vous faire tenir des dossiers et puis identifier les lacunes dans l'autonomie de chacun. Comment vous y prenez-vous ?
Alors, au niveau de l'équipe, nous sommes trois, hein, donc il y a trois intervenants, ce qui permet de répartir les accompagnements, les suivis, et tous les résidents du foyer n'ont pas nécessairement besoin d'un accompagnement de façon régulière, je dirais. Ça peut être juste, pour certains, juste une réponse ponctuelle par rapport à une démarche ponctuelle. Tous n'ont pas un accompagnement de façon régulière. On a en moyenne entre 12-14 suivis de façon régulière chaque travailleur social.
D'accord. Vous voulez dire que quand même il y a une partie de votre effectif qui a un degré d'autonomie suffisant pour pouvoir se passer de vos services, soit en totalité, soit en partie. Est-ce que vous recevez vraiment des jeunes qui sont vraiment en déficit d'économie complet et que vous êtes obligé d'accompagner complètement?
Alors, comme le disait tout à l'heure Mathieu Audus, les jeunes qui sont accueillis au niveau du foyer doivent de toute façon obligatoirement avoir un projet professionnel et avoir un minimum de revenus. Donc sur le plan économique, ils ont forcément des ressources, que ce soit par le biais d'un travail, par le biais d'une formation, par le biais d'un apprentissage ou autre. Ils ont un minimum quand même de ressources. Donc certes, ça varie hein, selon la situation, et la difficulté justement est de les amener à gérer leurs ressources, quelles qu'elles soient. Le minimum peut être de à peu près, on va dire, 400-450 euros, à ceux qui ont un salaire, à un SMIG. Donc là, effectivement, c'est un petit peu la difficulté, oui, pour ceux qui ont moins de revenus, oui, à arriver à gérer.
Alors, Mathieu, comment ça se passe, la vie quotidienne dans le foyer? Quelles sont les occasions qu'ont les jeunes de vivre ensemble et puis d'apprendre à vivre ensemble?
Alors, on va pas parler de cette période un peu particulière où, du coup, tout ce qui est...
On en parlera, mais après.
Voilà, en temps normal, on va dire que le FJT... En plus du volet, donc proposer un logement, proposer un accompagnement social adapté à chaque personne, qui peut être, comme on le disait, très léger ou très poussé, propose également une offre d'animation quotidienne. C'est-à-dire que tous les soirs, il y a une activité qui est proposée. Elle n'est pas imposée, elle est proposée. Et les jeunes s'inscrivent sur telle ou telle activité en fonction de leur envie, des choses qu'ils apprécient ou pas. Il y a des choses qui sont récurrentes au FJT. Par exemple, tous les lundis, les travailleurs sociaux mènent un atelier cuisine. Donc, ils vont chercher des denrées à la Banque alimentaire de la Dordogne, avec qui on a un partenariat. Et ces denrées sont cuisinées le soir, de manière collective. C'est organisé, les tâches sont réparties, tout le monde doit prendre part à cet atelier. Ensuite, le repas est partagé avec les jeunes et les professionnels. Et ouais, donc le but, c'est de l'échange de compétences, de connaissances en termes de cuisine, quel aliment, comment ça se cuit, comment ça se prépare. Et puis chacun, comme on a des publics qui viennent un peu d'horizons très divers et très variés, eh ben, on a des fois des moments d'atelier cuisine qui sont très intéressants.
Oui, ou les jeunes...
Brigitte qui y participe pourra en dire plus là-dessus.
Alors, on va se tourner vers Brigitte, puisqu'elle s'en occupe plus particulièrement. Alors Brigitte, la cuisine que vous proposez, ou que vos pensionnaires, c'est peut-être pas le terme approprié, proposent, est-ce que c'est une cuisine classique, ou bien est-ce qu'il y a un petit peu d'exotisme en fonction de la composition de vos effectifs, sur lesquels nous allons revenir tout de suite?
Oui, tout à fait. En fonction des participants à ces ateliers, effectivement, il arrive qu'on découvre nous-mêmes des recettes que eux proposent, qu'ils connaissent de selon leurs origines. Et du coup, c'est très enrichissant parce que ça permet de découvrir d'autres saveurs, d'autres façons de cuisiner les aliments aussi. Et voilà, on peut découvrir avec les mêmes ingrédients une autre recette tout aussi délicieuse.
Et donc, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des autres. Vous pouvez nous donner un petit aperçu, puis ça vous permettra de nous dire, quelles sont les combien de nationalités vous accueillez, quelle est la part de l'effectif qui est effectivement d'origine étrangère dans votre. Et si vous n'avez pas la réponse, on la demandera à Mathieu.
Alors, nationalité, effectivement, nous avons plusieurs nationalités. Le nombre exact, je ne saurais pas vous dire. Je peux vous en citer quelques-unes. On a des jeunes Guinéens, on a des jeunes Afghans, on a des jeunes Maliens, des jeunes Pakistanais, Érythréens, Éthiopiens. Je dois en oublier, mais enfin bon, voilà, c'est quand même assez voilà, cosmopolite.
Et alors tous ces jeunes-là sont des gens qui sont engagés, qui ont un projet professionnel. Mais alors, quel est leur statut ? Est-ce que ce sont des gens qui sont venus en France et qui ont demandé l'asile politique et qui l'ont obtenu ? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui sont en recours parce que leur demande n'a pas abouti initialement ?
On a des jeunes qui ont eu du parcours parfois différent. Donc on a des jeunes qui effectivement ont fait des demandes d'asile, qui ont eu la reconnaissance de leur statut, qui sont donc réfugiés et qui, à ce titre, peuvent prétendre à un appartement FGT, puisqu'il faut forcément être dans une situation en règle légale par rapport au droit au séjour, puisque sinon ils n'ouvrent pas de droit aux APL. Les revenus, forcément, c'est compliqué. Donc les gens qui sont... au FGT sont forcément en règle par rapport au droit au séjour. On a des réfugiés, on a des gens qui ont la protection subsidiaire, on a des gens qui ont des titres de séjour. C'est la majorité des situations qu'on a par rapport au public étranger.
Et ça, alors je reviens à la question que je voulais poser à Brigitte. Ça représente quelle part de l'effectif des gens qui sont dans cette situation par rapport on va employer l'expression consacrée aux Français de souche.
Là, comme ça, effectivement, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je dirais une vingtaine de personnes.
Oui.
Environ, 20-25.
C'est-à-dire à peu près
un gros tiers. Et c'est, en tout cas, voilà, c'est très enrichissant sur le collectif d'avoir des publics très variés, puisqu'on a une obligation de mixité, sur ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais on a une obligation de mixité sur le FGT, que ce soit des hommes, des femmes, des gens en CDI, des gens en apprentissage, des gens en scolarité, des gens en garantie jeune. La logique, c'est qu'on maintienne une mixité pour qu'il y ait toujours une dynamique qui soit positive.
D'accord. Alors justement, dans la mixité, il y a la parité. Alors la parité, elle est comment ?
Alors la parité, elle n'est pas du tout à 50-50, ouais. Puisque j'ai beaucoup plus de demandes de jeunes hommes que de jeunes femmes. Mais ce qui fait que quand des jeunes femmes s'en vont, les demandes des jeunes femmes peuvent être priorisées, en quelque sorte, pour qu'on puisse maintenir cette mixité.
D'accord. Et alors ça, vous avez une... Vous avez une hypothèse là pour expliquer ce déficit ?
Pas vraiment, non. Je vais vous dire des bêtises. Non, j'y réfléchirai, mais.
Mais est-ce que vous avez entendu dire que
est-ce que les jeunes femmes peut-être craignent peut-être de se retrouver dans un foyer de jeunes travailleurs ? Est-ce que elles se disent une jeune femme dans un foyer que des jeunes hommes et... Alors que...
Faudrait peut-être féminiser le nom de la structure.
Moi, Alors, ça s'appelle la passerelle. Donc, c'est déjà féminin.
C'est déjà pas mal.
RLP. Et le monde est à vous.
Alors, maintenant... On a commencé à parler des animations. Qu'est-ce que vous proposez comme autres animations ?
Alors effectivement, donc le lundi atelier cuisine, les réguliers, on a le mercredi foot en salle. Donc on a deux gymnases qui nous sont mis à disposition par la ville de Périgueux. Donc le mercredi, un gymnase où on fait foot en salle, et le jeudi soir, un autre gymnase où on peut faire badminton, basket, du volleyball, enfin voilà, d'autres sports. Et après, ça c'est vraiment les activités qui sont fixes. Et après, sur les jours restants et sur les week-ends, on va proposer des activités culturelles, parce qu'on a des conventions avec l'Odyssée. On a une convention avec Culture du Cœur, donc qui nous permet d'avoir des places pour aller voir des matchs de basket, que les jeunes puissent aller au cinéma. Le théâtre, on a des tarifs réduits. Après, on peut faire des balades, des sorties en vélo. L'été, aller au lac de Neufond pour des baignades. Enfin voilà, on a du matériel aussi. Qui nous permet de proposer des activités sportives pétanque, molki, enfin sportive et de loisirs. Hein. Pétanque, molki, palais, on a des ballons pour pratiquer rugby, handball, volley, foot. Donc on peut aller aussi sur inter extérieur.
Donc toute l'année, vous êtes en mesure de proposer des animations à vos pensionnaires comme ça. Et alors c'est suivi. De toute façon, je pense qu'une partie du travail des travailleurs et travailleuses sociales, c'est de veiller à ce que certains de vos jeunes ne restent pas isolés et dans leur coin, etc. Est-ce qu'il y a une adhésion complète à ces activités? Est-ce qu'elles sont très suivies?
De façon, oui, on peut dire de façon générale quand même. Alors bien sûr, comme on disait tout à l'heure, hormis cette crise sanitaire là qui a tout bouleversé, sinon la participation aux différents ateliers au niveau des jeunes résidents, était quand même assez régulière, et ils sont demandeurs aussi de ça, parce que ça leur permet de sortir un petit peu de leur quotidien, de se rencontrer aussi, d'avoir des temps d'échange, et puis c'est des temps de loisirs qui peuvent peut-être pas forcément, auxquels ils peuvent pas forcément accéder de façon classique.
D'une manière générale, ça se passe bien?
Oui, là-dessus on peut facilement dire que oui. Ouais. Il y a une très bonne ambiance au FJT. Il y a beaucoup de respect envers les professionnels et envers les autres résidents. Toutes les personnes qu'on héberge sont respectueuses, sont courtoises, polies. Et même quand il y a des difficultés, on peut en parler. On prend des rendez-vous, on se voit, on pose les difficultés. On essaye de trouver des solutions avec la personne. Et voilà, il y a un travail qui se met en place, mais c'est toujours... bienveillant en tout cas de la part des professionnels, et je pense que les jeunes le sentent et ils nous le rendent bien, parce qu'ils sont aussi vraiment, on a des super jeunes quoi.
Je pense qu'ils se sentent en confiance, effectivement. Oui, ils n'hésitent pas à venir
respecter,
tout à fait. Oui.
Je pense à quelque chose là, dans vos activités, vous avez des cours de langue, vous avez du français ou de l'anglais?
Non, il y a certains domaines sur lesquels nous on n'est pas compétent. Donc on a des travailleurs sociaux et on a des agents, des veilleurs de nuit, des agents administratifs. Donc on n'est pas compétent pour donner des cours de français. Donc pour tout ce qui est comme la santé, voilà, on n'est pas médecin, on a des partenaires et des gens avec qui on travaille à l'extérieur et vers qui on va orienter les jeunes. On travaille aussi avec l'extérieur. Le FJT n'est pas que replié sur lui-même. Il est ouvert, des partenaires viennent, on envoie des jeunes vers des partenaires. Voilà, il y a un échange et un travail en partenariat.
Les partenaires que vous sollicitez n'interviennent jamais à titre bénévole?
Alors les partenaires dont je vous parlais là, c'est effectivement, ça va être des institutions qui ont leur propre financement. Par exemple, pour les cours de langue, j'ai pensé à l'atelier Plume du centre social de Coulommiers-Chamiers. Oui. Voilà, c'est un dispositif qui est existant, qui est financé. Et nous, on oriente des jeunes qui rentrent par la voie normale d'entrée dans ces dispositifs. Sur le volet santé... Quelqu'un qui va avoir un besoin urgent de tel acte de santé et qui va être en difficulté financière, on va pouvoir orienter vers des services de santé qui vont peut-être prendre dans un premier temps qui vont pouvoir faire des actes gratuits. Et après, on réouvre les droits s'il y a eu un problème d'ouverture. On remet en route la machine. Et après, les gens vont chez un médecin traitant et puis passent à l'hôpital au besoin. Brigitte les orientera, les accompagnera et puis réouvrira les droits au besoin ou réglera un problème de blocage. Ça fait partie du travail des travailleurs sociaux.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler alors combien vous êtes pour faire tout ce travail?
Alors donc, il y a 3 travailleurs sociaux, il y a 3 veilleurs de nuit. Et il y a 2 agents administratifs, une plus spécialisée sur le volet comptabilité, gestion financière, et une deuxième sur l'accueil et tout ce qui est l'interne au FJT, les admissions, les entrées, les dossiers, etc.
Comment fonctionnez-vous? Comment êtes-vous financé? Deuxièmement, je voudrais savoir comment on devient travailleuse sociale, directeur d'un foyer comme ça? Et puis la dernière question, évidemment, qui est inévitable, comment vous vivez la situation actuelle?
Alors sur le volet financier, ce n'est pas ma partie, donc moi je suis plutôt sur le volet éducatif. Oui. Donc on a des financements quand même par la CAF. Après, on a nous des conventions avec des partenaires qui nous confient des jeunes et on a un financement des prix de journée. Donc ce qui fait qu'il y a des entrées d'argent en plus des loyers. Mais on est également locataire, donc on paye un loyer. Donc voilà, tout ça, c'est une histoire de rentrée d'argent, de subvention. Voilà. Effectivement, ça, si vous souhaitez plus d'informations, il faudra peut-être se rapprocher d'Hélène Seigneur, qui est directrice du CCS.
Je ne suis pas en train de faire un audit, là.
Ça ça va venir.
Alors.
Et vous me demandiez comment on fait pour travailler ici, c'est ça, non ?
Oui, comment êtes-vous devenu, comment êtes-vous arrivé à faire le travail que vous faites ? Est-ce que c'est une vocation initiale ou bien est-ce que c'est le hasard d'emplois successifs ou d'une formation qui vous a orienté vers ce travail ?
On a tous des parcours différents. Je crois que tous les gens qui bossent ici ont des
parcours différents. On va commencer par Brigitte.
J'ai un parcours très, très atypique puisque j'ai pas travaillé dans le social depuis le début de ma vie professionnelle. J'ai passé le diplôme de conseiller SF un petit peu sur le tard par rapport à certaines autres personnes. Je suis arrivée donc au foyer des jeunes travailleurs. Il y a un peu plus d'un an maintenant, avec, je l'avoue, au départ, une petite appréhension par rapport au public, parce que c'est un public avec lequel je n'avais jamais travaillé jusqu'à présent. Et finalement, je me rends compte que c'est un public attachant et qui est aussi enrichissant par rapport aux échanges qu'on peut avoir.
Mais alors, il doit y avoir quand même des liens affectifs qui se créent avec certains pensionnaires. Je ne sais pas s'il y en a qui vous appellent maman, mais enfin, je pense que vous êtes un petit peu ça pour eux. Et vous, Mathieu, alors comment est-ce que vous êtes devenu directeur du foyer des jeunes travailleurs ?
Je ne suis pas directeur, du coup, je suis responsable, chef de service, on peut dire en quelque sorte. Moi, j'étais parti pour faire des études pour être enseignant d'EPS. Donc, j'ai commencé, j'ai changé de voie un peu sur le tard aussi. J'ai cherché ma voie un petit peu, puis je suis, pas par hasard, mais ça me en parlant avec des connaissances, j'ai mis un pied dans le travail social en tant qu'animateur socio-éducatif. Et ça m'a énormément plu. Et puis, j'ai passé la formation, le concours d'entrée à l'école, j'ai fait l'école. Le diplôme, et après j'ai travaillé dans différentes structures, des foyers de l'enfance, et puis le CHRS La Canale qui appartient au CCS également. Et par la suite, voilà, on m'a proposé de prendre un poste à responsabilité.
Le foyer La Canale,
ouais.
D'accord.
Donc on m'a proposé de prendre des responsabilités que j'ai acceptées, et puis du coup maintenant j'ai le CHRS La Canale, la maison relais des Berges de Lille et le foyer de jeunes travailleurs.
Ah bon, parce que vous occupez de ces trois, structures. Oula, mais ça vous laisse un petit peu de temps, ça me permettra de vous poser une ultime question à ce sujet. Alors, et avant de vous la poser, dites-nous un petit peu comment vous vivez la situation actuelle, enfin depuis, on va dire, février ou mars 2020.
Ben c'est compliqué.
Après, comme disait Mathieu tout à l'heure, on parlait de respect. C'est vrai que quand même, moi, ce que je peux noter, c'est qu'au niveau des jeunes résidents, à part quelques exceptions, mais rares exceptions, ils sont quand même dans la majorité à respecter justement toutes les consignes qui ont été données par rapport aux gestes barrières et tout ça. Et du coup, ce qui fait qu'on a, j'allais dire, échapper à une éventuelle contamination au niveau du FJT, alors que bon, voilà, il y a un public assez nombreux qui a des contacts, voilà. Malgré tout, on a, avec le respect de toutes ces consignes, on a échappé au pire, je dirais.
C'est ça, d'accord. Et là, Mathieu va peut-être pouvoir nous le dire, ou peut-être vous, parce que vous êtes peut-être mieux placé que lui, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une lassitude et puis que bon, les conditions de vie commencent à peser un petit peu sur vos pensionnaires ?
Le souci, si je peux me permettre, c'est on a fait appliquer les gestes barrières, et puis en temps de confinement, pas de visiteurs, les jeunes, ils ne devaient pas aller d'un appartement à l'autre, etc. Ouais. Donc ça a été effectivement compliqué au niveau isolement, quoi, et le lien social était du coup réduit à son minimum. Et là encore aujourd'hui, les visiteurs extérieurs sont interdits.
Oui,
donc ça, les jeunes, ça leur pèse énormément, et c'est compliqué. Autant ils jouent le jeu sur le masque, ils font attention dans les espaces communs, même si nous on est toujours à faire de la pédagogie et à rappeler, parce que voilà, ça fait partie de notre travail. Mais ce qui leur pèse beaucoup aujourd'hui, c'est l'interdiction d'accueillir des amis sur leur logement. Donc ça, c'est des choses, on avait jusqu'au 20 janvier où on attendait de voir comment ça allait se passer. Donc là, on est encore dans l'incertitude. On ne sait pas ce qu'on est partagé entre permettre à nos jeunes de recevoir leurs amis et les protéger aussi. Donc c'est un dilemme pas simple à régler. Donc là, on attend de voir ce qui va se passer. On attend les consignes nationales et puis on s'adapte.
Est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce qu'ils vous parlent du handicap que leur vaut la situation actuelle dans leur projet professionnel, par exemple ?
Ah oui, bien sûr, on a des jeunes qui se retrouvent dans des situations très compliquées. par rapport au travail, puisqu'il y a des jeunes qui ont toujours été dans des emplois. Ils renouvelaient, par exemple, un jeune qui a un titre de séjour qui doit renouveler. Il est obligé de justifier d'une activité.
D'accord.
Sauf que aujourd'hui, il y a certains secteurs tels que la restauration collective, toutes ces choses-là, où les jeunes recherchant un emploi sont coincés. Et là, du coup, ça devient compliqué.
Ça ferme des portes.
Voilà, et on peut se retrouver avec des situations qui sont complexes. Complexe à gérer. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose
sur la période
du Covid, je voulais souligner aussi que l'équipe du FJT, du coup, s'est adaptée parce qu'on a dû modifier les plannings. Il y avait des gens qui étaient en télétravail, d'autres qui venaient. Les horaires ont été bouleversés. Les collègues travaillaient sur des durées beaucoup plus longues, des journées, des semaines beaucoup plus lourdes. Et toute l'équipe a vraiment été présente, a joué le jeu, s'est investie. Et c'est aussi ce qui fait que... pour les jeunes, la période de Covid a été difficile, mais moins difficile.
D'accord.
Puisqu'il y avait toujours du monde.
Ils ont toujours vu sur le pont et à leur disposition. Alors, il nous reste quelques secondes pour vous demander à l'un et à l'autre, comme je le fais toujours dans ce genre d'émission, est-ce qu'il y a une vie en dehors du FJT pour vous ? Est-ce que vous avez des passions que vous pouvez assouvir ? Est-ce que vous arrivez à avoir une vie familiale, une vie personnelle ? Brigitte.
Oui, bien sûr, et je dirais même que c'est nécessaire, justement, pour ne pas se laisser trop happer par les différentes difficultés et problématiques que rencontrent ces jeunes. On a besoin d'avoir, effectivement, lorsqu'on quitte le travail, d'avoir une bouffée d'oxygène et de pouvoir se vider la tête, comme on dit.
Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Alors, moi, ce sont les animaux.
Oui.
Donc, je m'occupe d'animaux.
Oui. Des animaux de compagnie ?
Des animaux de compagnie, pour l'instant. Mon rêve serait des animaux plus... plus exotique, je dirais, mais ça...
Comment ça, des pitons, des varans
En fait, j'aimerais pouvoir aller en Afrique.
Dépêchez-vous, hein, parce que...
Oui, c'est pour ça. ça reste dans le domaine du rêve.
Très bien. Et peut-être que, vous savez, on est en train de sauver la faune sauvage d'Afrique en la réimplantant en Europe. Alors, vous aurez peut-être l'occasion de vous en occuper. et Mathieu, alors, vous, comment est-ce que vous arrivez à décompresser en dehors de vos activités ici ?
Moi, j'ai aussi la famille, mes enfants, mon ami. Et puis, j'ai une passion pour la musique. Donc,
En plus du sport, alors.
Alors voilà, le sport, j'ai un peu arrêté. Pour être honnête, j'ai arrêté la fac de sport, j'ai arrêté le sport en même temps. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, je fais de la musique. Donc moi, j'en fais moins qu'avant, j'ai moins le temps. Mais,
et votre instrument, alors, qu'est-ce que c'est ?
C'est la guitare.
La guitare. Très bien. Brigitte, Mathieu, merci beaucoup de tout ce que vous avez apporté à nos auditeurs. On sait maintenant ce que c'est que... On sait beaucoup de choses sur le FJT et la manière dont il fonctionne et tous les services qu'il rend aux jeunes qui le méritent bien. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Into the ground in my sleep, where I stood 6 feet deep. Boys and moves should have put me down. Can't believe I wasn't taken now. I've been a fool like this before. But I can't keep running out like this no more. No spring.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Nobody wants to take me in. And I